Enfin, le grand jour arriva. J'y fus un peu en retrait sur une petite butte, car la chose m'intéressait. Le Saint-Siège a des troupes et des villes qu'il nous faut pouvoir défendre. Le roi Jean II paraît, coiffé de son aume couronné de fleurs d'or. De son épée flamboyante, il donne le signe de l'attaque, tandis que les trompes sonnent. Au sommet de la tour tendue de cuir flotte la bannière aux fleurs de lys et au-dessous les bannières des troupes qui occupent les trois étages. C'est un bouquet d'étendards que ce beffroi. Et voilà qu'il se meut. Hommes et chevaux lui sont attelés par grappes et l'archiprêtre scande l'effort à grands coups de gueule. On m'a dit avoir employé pour 1000 livres de cordes de chanvre. L'engin progresse très lentement avec des gémissements de bois et quelques oscillations, mais il progresse. De le voir ainsi avancer, se balançant un peu et tout hérissé de drapeaux, on dirait un navire qui va à l'abordage. Et il aborde, en effet, dans un grand tumulte. Déjà, on se bat sur les créneaux, à hauteur de la troisième plateforme. Les épées se croisent, les flèches partent en vol serré. L'armée qui enserre le château tout entière, tête levée, a le souffle suspendu. Là-haut, se font de beaux exploits. Le roi, la ventaille ouverte, assiste superbe à ce combat dans les airs. Et puis, soudain, un énorme fracas fait sursauter les troupes et un jet de fumée enveloppe les bannières au sommet du beffroi. Messire de Lancastre avait laissé des bouches de canon à Don Sanche Lopez, que celui-ci s'était bien gardé d'utiliser jusqu'à présent. Et voilà que ces bouches, par les trous ménagés dans la muraille, tirent à bout portant dans la tour roulante, crevant les peaux de bœufs qui la recouvrent, fauchant des rangées d'hommes sur les plateformes, brisant les pièces de charpente. Les balistes et les catapultes de l'archiprêtre ont beau se mettre de la partie, elles ne peuvent empêcher qu'une deuxième salve ne soit tirée, puis une troisième. Ce ne sont plus seulement des boulets de fonte, mais aussi des pots enflammés, des sortes de feux grégeois qui viennent frapper le beffroi. Les hommes tombent en hurlant, ou se ruent à dévaler les échelles, ou même se lancent dans le vide, affreusement brûlés. Les flammes commencent à jaillir du toit de la belle machine, et puis, dans un craquement d'enfer, le plus haut étage s'effondre, écrasant ses occupants sous un brasier. De ma vie, Archambault, je n'ai entendu plus effroyable clameur de souffrance. Et encore, je n'étais pas au plus près. Les archers étaient pris dans un enchevêtrement de poutres incandescentes. Poitrines défoncées, leurs jambes, leurs bras cramaient. Les peaux de bœufs, en brûlant, répondaient d'une odeur atroce. La tour se mit à pencher, et alors qu'on croyait qu'elle allait s'écrouler, elle s'immobilisa, inclinée, flambant toujours. On y jeta de l'eau comme on put, on s'affaira à en retirer les corps écrasés ou brûlés, tandis que les défenseurs du château dansaient de joie sur les murailles, en criant « Saint-Georges, loyauté ! Navarre, loyauté !» Le roi Jean, devant ce désastre, semblait chercher autour de lui un coupable, alors qu'il n'y en avait d'autre que lui-même. Mais l'archiprêtre était là, sous son chapeau de fer, et la grande colère qui allait éclater resta dans le home royal, car Servol était sans doute le seul homme de toute l'armée qui n'eût pas hésité à dire au roi « Voyez votre ânerie, sire. Je vous avais conseillé de creuser des mines plutôt que de bâtir ces grands échafauds qui ne sont plus d'usage depuis bientôt 50 ans. On n'est plus au temps des Templiers, et Breteuil n'est pas Jérusalem. » Le roi demanda simplement « Cet attournement peut-il être réparé ?»« Non, sire. Alors cassez ce qu'il en reste. Cela servira à combler les fossés. » Ce soir-là, je pensais opportun de l'entreprendre sérieusement sur les approches d'un traité de paix. Les revers, ordinairement, ouvrent l'oreille des rois à l'entendement de la sagesse. L'horreur dont nous venions d'être témoins me permettait d'en appeler à ses sentiments chrétiens, et si son ardeur chevaleresque était avide de prouesses, le pape lui en offrait, à lui et aux princes d'Europe, de bien plus méritoires et plus glorieuses du côté de Constantinople. Je me fis rebuffer, ce qui remplit d'aise Capocci. J'ai 2 chevauchées anglaises qui me menacent en mon royaume et ne puis différer de m'apprêter à leur courir su. C'est là tout mon souci pour le présent. Nous reparlerons à Chartres, s'il vous plaît. » Les dangers qu'il ignorait la veille lui paraissaient soudain d'urgence première. Et Breteuil, quel est-il décidé pour Breteuil? Préparer un nouvel assaut demanderait un autre mois aux assiégeants. Les assiégés, pour leur part, s'ils n'avaient épuisé ni leurs vivres ni leurs munitions, avaient été pas mal éprouvés. Ils avaient des blessés, leur tour était décoiffé. Quelqu'un parla de négocier, d'offrir à la garnison une reddition honorable. Le roi se tourna vers moi. « Eh bien, monseigneur cardinal ?» Ce fut mon tour de lui marquer hauteur. J'étais venu d'Avignon pour œuvrer à une paix générale, non pour m'entremettre dans une quelconque livraison de forteresse. Il comprit son erreur et se donna contenance par ce qu'il crut être une repartie plaisante. Si cardinal est empêché, archiprêtre peut faire office. Et le lendemain, tandis que la tour de bois fumait encore et que les terrassiers s'étaient remis à l'œuvre, mais cette fois pour enterrer les morts, notre sire de Véline, monté sur ses guêtres d'acier et précédé de trompes sonnantes, s'en alla conférer avec Don Sanche Lopez. Ils marchèrent un long moment devant le pont-levis du château, regardés par les soldats des deux camps. Ils étaient l'un comme l'autre, hommes de métier, et ne pouvaient s'en faire accroire. Si je vous avais attaqué avec des mines à poudre sous vos murs, messire. Ah, messire, je pense que vous seriez venu à bout de nous. Combien de temps pouvez-vous tenir encore ? Moins longtemps que nous le souhaiterions, mais plus que vous ne l'espérez. Nous avons suffisance d'eau, de victuailles, de flèches et de boulets. Au bout d'une heure, l'archiprêtre s'en revint vers le roi. Don Sanche Lopez consent à vous remettre le château si vous lui laissez libre départ et si vous lui donnez de l'argent. Soit qu'on lui en donne et qu'on en finisse. Et deux jours plus tard, les gens de la garnison, tête haute et bourse pleine, sortaient pour s'en aller rejoindre Monseigneur de Lancastre. Le roi Jean devrait réparer Breteuil à ses frais. Ainsi se terminait ce siège qu'il avait voulu mémorable. Encore eut-il le front de nous soutenir que sans son beffroi d'assaut, la place serait venue moins vite à composition.